Dans le studio marseillais, on accueille Charlotte De Weert de la direction artistique du festival À Flamme. À Flamme, c'est une association qui existe depuis 2000 et œuvre à la diffusion et la promotion des cinémas arabes internationaux auprès des différents publics. Et pour cela, la 9e édition des rencontres internationales de cinéma aura lieu entre le 24 mars et le 3 avril 2022 dans la cité phocéenne. C'est bientôt. Bonjour Charlotte.
Bonjour Colline.
Alors, comment s'organise ce festival ? Chaque année, vous travaillez à une nouvelle sélection de films.
Oui, on a depuis maintenant 2013 la possibilité de proposer une belle manifestation pendant une dizaine de jours. C'est maintenant organisé au printemps. On a ce rendez-vous qui s'est établi, qui s'est instauré. Et c'est un festival qu'on organise en partenariat étroit avec le MUCEM, qui nous accueille pendant l'essentiel de l'événement. Mais pas seulement au MUCEM, on a aussi l'habitude de proposer des films dans les cinémas partenaires de Marseille. Cette année, on a dû faire une édition un petit peu plus réduite, plus modeste, après deux années de complications qu'on a tous vécues dans la scène culturelle, entre autres. Donc, pour revenir tranquillement, en douceur, on repart d'un maillage un peu plus serré avec le cinéma du Polygone étoilé, qui va nous accueillir à deux reprises, et le Vidéodrome 2 également, qui nous accueille à deux moments de l'édition du festival.
Dans le 2e et dans le 6e arrondissement de Marseille.
Oui, c'est ça.
Alors, vous parlez des deux précédentes éditions, et donc c'était des éditions sur seulement disponibles en ligne, finalement.
Ben, on a eu, il y a deux ans, le tsunami du Covid, enfin, je ne sais pas comment appeler ça, mais non, ça a été carrément une interruption nette, hein, parce qu'on faisait partie de ces festivals qui se trouvaient juste fin mars. On se rappelle tous ce qui se passait il y a deux ans. Donc ça a été une édition qui a été avortée, on peut dire. Elle était complètement prête, mais c'était l'impossibilité totale de faire l'événement. Ce qui nous a amené à nous réinventer dans les mois qu'on suivit, à commencer à faire des propositions, quelques petites propositions en ligne, mais assez modestes. Et petit à petit, on a réussi à retrouver une activité en proposant davantage d'aller vers les publics tout au long de l'automne, notamment. On a organisé des séances plutôt in situ. Et le printemps suivant aussi, en début d'année, l'année dernière, entre janvier, février, mars, on proposait on faisait un peu du sur-mesure, quoi. Par exemple, des lycées pouvaient nous accueillir, on organisait des projections, ce genre de choses. Et puis, la dernière édition, par contre, elle a été effectivement conçue uniquement en ligne. Donc on avait pendant une huitaine de jours toute une nouvelle édition à proposer, ce qui quand même est important pour nous parce que toute l'activité de production, de réalisation continue et ça crée des effets d'embouteillage. Donc c'était important qu'on puisse partager la création de 2019-2020, l'année dernière. Et on avait quand même, il faut le souligner parce que c'est quelque chose d'assez unique à Marseille, un lieu qui nous avait accueillis pendant toute la semaine, c'est la nouvelle salle qui s'appelle le studio Images et Mouvements, qui est la salle de cinéma installée au sein de l'établissement des Baumettes, de l'établissement pénitentiaire. Donc il y a un dispositif avec lieu fictif qui permet, ils proposent des cours de formation audiovisuelle aux détenus, mais ils ont la possibilité aussi d'accueillir des festivals pour montrer des films auprès des détenus. Et donc, on avait eu la possibilité d'avoir une existence physique grâce à cette salle.
Dans les Baumettes.
Cette année, on continue d'ailleurs ce partenariat.
Donc là, en 2022, vous mêlez à la fois ces nouvelles idées d'aller in situ et aussi de continuer et de revenir vers du tout public, d'ouvrir des lieux physiques où on peut se retrouver.
Alors, c'est plutôt, finalement, le in situ, la démarche, parce que ça, c'est quelque chose d'assez propre à Flamme, de ne pas proposer seulement un événement de festival, mais d'être actif tout au long de l'année. Donc le fait d'aller à la rencontre des publics et de proposer des temps, pas forcément de projection, mais aussi d'éducation à l'image, des propositions d'ateliers, par exemple. Ça, on le fait tout au long de l'année. Notamment, on a un très beau partenariat dans le quartier de la Busserine, avec le centre social Agora et l'école de la Busserine. Donc là, par exemple, en ce moment, on se rend dans ces lieux. On a des activités de cinéma régulières. Mais pendant la période dont on parle, du 24 mars au 3 avril prochain, c'est pleinement une proposition de festival. C'est vraiment au public de venir à notre rencontre pour justement à la fois découvrir des films, mais aussi échanger avec les réalisateurs et les réalisatrices. Parce que cette année, effectivement, les possibilités de voyage ayant reprise, on a pu réunir pratiquement tous les cinéastes de notre édition. On en est très contents.
Ah, c'est génial. Ouais. Qu'on puisse revenir vers vous. Ouais. Et quelles sont les thématiques qui sont retenues pour la programmation de cette année ?
Alors, on fonctionne, donc c'est un festival qui est non compétitif déjà, et on fonctionne sans thématique particulière, a priori. Par contre, on a des axes et des propositions de découverte. Par exemple, cette année, ce qui est une nouveauté, c'est un nouveau cycle qu'on porte et qu'on aimerait voir évoluer, se développer. C'est autour de la thématique patrimoniale. Donc on est trois à organiser la direction artistique du festival. Il y a Solange Poulet et Mathilde Rouxel. Et cette dernière, c'est une jeune chercheuse en cinéma qui a mené une grande activité de conservation, notamment dans le cadre de plus du cinéma libanais. C'est un peu son territoire de travail premier. Et elle nous a proposé donc un très joli cycle qui déploie plusieurs thématiques. Donc ça, c'est un fil rouge pendant le festival, de venir à la fois découvrir les nouveaux films qui viennent d'être réalisés et en même temps de faire une plongée dans une histoire du cinéma. Donc je vais en dire un petit peu plus peut-être sur ça.
Oui, mais justement, vous parlez de ce cycle patrimoine donc, qui fait partie de vos programmations et réunit des films en fait, qui ont une valeur historique. Et là, en l'occurrence, sur les luttes des peuples, notamment face à la colonisation, des films qui sont réalisés sur place dans les pays arabes ou au Liban, là, en l'occurrence, qui nous amène à nous questionner sur des images produites par les instances officielles en France dans les mêmes années, en parallèle, et diffusées à des fins d'éducation, donc dans des cadres scolaires ou extrascolaires. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns donc, de ces films qui font partie du cycle patrimoine ?
Oui. Alors, en fait, on a conçu donc ce programme-là. On en retrouve un petit peu dans notre programmation MUCEM. Notamment, on a le film de Nabiha Lotfi, Jeux d'enfants, qui sera présenté dès la première matinale le vendredi 25 mars. Donc ça, c'est un court-métrage qui va nous donner un aperçu de ce travail-là. Mais sinon, cette thématique, elle va plutôt être proposée à la fois au Polygone et au Vidéodrome 2. Donc ce que vous disiez à l'instant, c'est la première qui va être explorée pendant le dimanche 27 mars, c'est véritablement la question des luttes du cinéma engagé à partir de films produits plutôt dans les années 70. Et c'est un cinéma qui finalement nous montre à quel point aussi les limitations de frontières et les appellations monde arabe, etc., n'ont pas véritablement de portée quand il s'agit de cinéma et d'engagement. Ce sont des cinéastes qui se déplacent et qui vont faire des films et qui reviennent et qui circulent de pays en pays, de continent en continent. Donc ce cycle-là, c'est par exemple, on va voir des films de René Vautier, mais aussi de Monika Maurer, qui est une militante allemande qui avait appartenu au Parti communiste et qui après a rejoint l'OLP et qui a vraiment dédié sa vie à la cause palestinienne. Donc on revient vers ces films-là pour citer quelques films à découvrir. Vous aurez de Monika Maurer, vous aurez le film Palestine en flammes qui sera présenté l'après-midi du 27 mars, mais aussi Why. Et dans la continuité de cette présentation de ces films d'époque, il y a une table ronde qui est organisée en fin d'après-midi à 17h30 autour des questions plus professionnelles et sociétales. Des enjeux en fait de la restauration et de la circulation de ces films, qui sont très fragiles, qui sont dans un état d'urgence, en fait, qu'il faut absolument sauvegarder.
Parce que c'est des films sur bobine.
Oui, tout à fait. Oui. Ce sont des films sur bobine, dont la question de la sauvegarde, en fait, se pose beaucoup. Et puis, on aura donc, à cette occasion, une discussion qui va avoir lieu avec Monica Maurer, qui va être avec nous. Et aussi, il y aura, pour prolonger cette réflexion, le mardi soir, le mardi en fin de journée, au Vidéodrome 2, un autre temps où là, il y aura une focale un peu plus sur la question des images produites en Algérie. Donc, ce qui est tout à fait d'actualité, dans le sens où on fête le 60e anniversaire de la fin de la guerre de libération et de la fin de quelque part aussi de la présence coloniale française en Algérie. Donc là, il y aura aussi Olivier Hadouchi, qui est un historien du cinéma, et Wassila Temzali, qui viendront parler de cette production plus propre à l'Algérie en regard avec la production palestinienne. Je complète en précisant que le dimanche soir, à l'issue de cette journée où on s'intéresse au cinéma engagé, cinéma militant, il y aura une présentation, c'est cette deuxième thématique un petit peu qui parcourt ce cycle du patrimoine. Il y aura une projection des cinéastes pionnières, les documentaristes dans les pays arabes qui ont produit énormément de films.
Des femmes.
Oui, des femmes. Tout à fait. Donc ce sera pour la séance en question, la possibilité de découvrir le travail de Sophie Ferchiou avec un documentaire plutôt ethnographique qu'elle a réalisé en Tunisie. Il y aura aussi le très beau cinéma de Atiyat El Abnoudi, qui a filmé plutôt la campagne égyptienne et s'est intéressée à la condition des femmes dans le film Rêve possible, ainsi que le travail de Nabiha Lotfi, dont j'ai mentionné tout à l'heure un court-métrage qui serait présenté au Mucem. Donc un beau bouquet de films, de femmes, des années 70-80, jusqu'aux années 90, pour revenir sur un aspect très peu connu de la production de la région dont nous parlons.
Donc, trois traversées un peu avec ce cycle patrimoine à découvrir. Je reviens sur l'aspect non compétitif de votre programmation, de votre sélection. Comment ça se fait ? Est-ce que vous recevez donc des films ? Est-ce que vous les programmez tous ? Ou est-ce qu'en fait, c'est vous qui allez vers les cinéastes et les réalisateurs de façon à ne pas avoir ce choix à faire dans toutes les propositions qui vous sont faites ?
Ben, c'est un système, donc on a un appel à films qui est lancé. En fait, le rythme d'un festival se déploie sur toute une année. Donc, dès qu'une édition est terminée, on est déjà tout de suite, et puis même pendant l'édition, on a des choses qui nous arrivent, qui ne correspondent pas exactement au calendrier. Donc, on est un peu toujours dans une veille. Mais on a effectivement, pour le présenter de façon claire, un appel à films qui nous permet, pendant l'été, de recevoir des réalisateurs, les maisons de distribution, hein, dont c'est le travail, de porter les films qu'ils accompagnent. Ils nous envoient des liens, donc on peut découvrir les films pendant toute la période de juillet à octobre. On part, nous aussi, à la pêche, aux films, parce que c'est aussi la spécialité d'AFLAM. Depuis plus de 20 ans, cette structure, elle a tissé des liens d'amitié avec des lieux de diffusion dans les pays arabes, des programmateurs, des programmatrices, des cinéastes. Donc on fait jouer un peu aussi tout notre réseau pour qu'ils puissent nous envoyer, je donne un exemple, mais il y a une école de cinéma à Alexandrie dont les professeurs vont nous dire voilà la jolie moisson de la dernière promotion des jeunes cinéastes, regardez les courts-métrages ou les premiers films qui ont été faits, par exemple. Ça nous, c'est aussi un aller-retour entre ce que les films qui viennent et nous qui allons les chercher. Et ça nous permet de faire cette sélection. Alors non, malheureusement, on ne montre pas du tout l'ensemble des films qu'on reçoit. Il y a vraiment cette notion de sélection, même si ce n'est pas compétitif, il y a quand même la notion de sélection qui est très importante. Donc ça, c'est un dilemme permanent, parce qu'on a pas assez de place, ou voilà, on aimerait en montrer beaucoup plus. Mais on arrive fin novembre à boucler la première base de notre événement. Et puis, ce qu'on reçoit par la suite, et les envies plus thématiques, nous amènent à affiner des propositions de programme. Et là encore, je reviens sur le fait que, n'ayant pas que le festival, on peut trouver d'autres espaces pendant l'année pour présenter des films. Mmh. Donc ça, c'est plutôt un bel espace complémentaire, en fait.
Et donc, dans le sens de pas compétitif, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie faite ensuite sur les propositions qu'on vous donne. Il n'y a pas de premier prix, il n'y a pas de, justement, de prix décerné à la fin.
Oui, on n'est pas... Et c'est une économie, en fait. Moi, je veux pas forcément... Il n'y a pas véritablement un... Peut-être pour les fondateurs de l'édition, c'était quelque chose aussi qui est un signe fort aussi de ne pas être dans la compétition. Mais en soi, c'est, ça se comprend aussi de pouvoir faire jouer la notion de compétition parce que ça permet de faire circuler une économie aussi. C'est-à-dire que les films qui sont primés, ils sont dotés financièrement. Et ça, c'est tellement important pour les cinéastes pour la réalisation de leurs films. Mmh. Donc nous, on ne fait pas ça. Évidemment, pour quelqu'un qui a un petit coup d'œil, il sait que le film qui est programmé le samedi soir, ou en inauguration, ou en clôture, il fait partie des films un peu pépites, ou en tout cas de nos coups de cœur. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que le film de 10h du matin n'est pas bon, parce qu'il se joue d'autres logiques pour faire venir des publics en journée. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une forme de...
De choix dans les moments de diffusion.
C'est ça, exactement.
Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse écouter le teaser 2022. On pourra entendre, bon, et pas voir, mais entendre au moins ce qui va se jouer là fin mars. Donc, je vous envoie ça maintenant, puis on discute après avec Charlotte De Weert.
T'as chuté, Fergie. Fergie. أغلقني
Sur Fréquence Mistral, vous venez d'écouter le teaser de la 9e édition des Rencontres internationales de cinéma organisées par AFLAM qui aura lieu entre le 24 mars et le 3 avril 2022 à Marseille. Charlotte De Weert, qui est à la direction artistique de ce festival, est avec moi dans le studio. Donc on revient un peu quelques instants sur ce teaser. Déjà, qu'est-ce qu'on entend et aussi qu'est-ce qu'on voit, parce qu'à la radio, on ne peut pas voir les images de ce teaser. Je vous invite à aller le voir sur aflam.fr.
Oui, alors du coup, c'est comme une question que tu m'adresses.
Okay. Oui, c'est ça.
Eh bien, déjà, ce qui est très joli, et je remercie beaucoup Tiffany Ripoli qui a conçu ce teaser, c'est qu'il nous fait, il nous amène dans la nuance de cette édition. La nuance, elle est, j'ai deux choses là qui me viennent en tête, c'est que tout d'abord, elle est dans l'appellation de Aflam, qui est un mot arabe qui veut dire des films, et un petit peu l'identité de notre édition, c'est qu'on est souvent ramené à figer un petit peu les choses et on parle de cinéma arabe. Bon, ok, est-ce que ça existe? Qu'est-ce que c'est que cette appellation? En plus, ça va un peu à contre-courant de notre époque où on en a marre des assignations ethniques, des choses qui peuvent comme ça figer les choses. Nous, quelque part, vraiment, notre proposition, elle est de faire circuler des films qui n'arrivent pas facilement dans les salles de cinéma et de faire vivre comme ça tout un espace de circulation avec cette région, Maghreb et Grand Moyen-Orient. Mais à l'intérieur de cette région, j'en viens au teaser, c'est pas la langue arabe là qu'on entend, c'est la langue amazir. Donc déjà, on voit tout de suite que c'est quelque chose de très nuancé, de pluriel, la région dont on parle. Ce film, dont est extrait le dialogue, il s'appelle « Rêve ». Et c'est un film qui est réalisé par Omar Belkacemi, son premier long-métrage. Il sera avec nous pour le présenter le vendredi 1er avril, en soirée au Mucem, à 20h30. Et c'est un film qui se passe dans la montagne, en Kabylie, dans le nord de en Algérie. Et c'est l'histoire de deux frères. Au tout début du teaser, le frère Coco dit à son autre frère « C'est quoi le rêve ?» Et de lui répondre « Le rêve, ferme les yeux. » Et là commence le parcours de ce petit récit du teaser. Et à la fin, on revient sur le protagoniste de Rêve. Et on a un deuxième aperçu de leur dialogue où Coco, qui est le personnage naïf et touchant de ce film, dont les gens du village veulent un petit peu se débarrasser parce qu'il a une forme de naïveté, de simplicité, et ça peut déranger un petit peu parce qu'il pose des questions, il n'est pas...
Sans filtre.
Voilà, il est exactement. Et son frère, qui est prof de philosophie à Béjaïa, revient au village pour s'occuper de son frère. Et donc le dialogue est le suivant... Coco dit « Je ne comprends pas pourquoi toute cette beauté échappe à l'homme. » Et aux frères de répondre « S'ils avaient de l'amour pour la nature, ils auraient de l'amour pour toi. S'ils avaient de l'amour pour la nature, ils en auraient pour eux-mêmes. » Donc voilà, on est dans l'aspect un peu... la façon de faire résonner aussi la langue amazir, dont le cinéma, dont la culture est très vivante et se retrouve représentée dans notre édition. On est aussi dans une touche poétique. Et c'est ça aussi, voilà, la deuxième chose que j'avais envie de souligner, c'est que dans cette séquence sonore et visuelle, on a à la fois des images dures de la destruction, des images de guerre, avec l'aperçu d'un film d'animation qui s'appelle Night, qui nous ramène sur l'histoire récente de la Syrie, dont l'actualité très immédiate peut que nous rappeler la décennie douloureuse aussi avec ces images de destruction qui nous viennent. Et en même temps, il y a dans la suite de ce teaser quelque chose de très swing, de très enlevé qui arrive. Et ça, c'est le souffle très fort, à la fois porté par la création, mais qui vient de ce cycle, de ces films de patrimoine, et c'est notamment extrait, cette musique-là, elle est extraite du film de Ali et Safi, Avant le déclin du jour, qui sera présenté le samedi 26 mars à midi, et qui est un film d'archives qui revient sur les années 70 au Maroc, et qui nous montre l'extraordinaire dynamisme qu'il y avait, tout azimut, hein, dans la scène musicale, culturelle en général, filmique, et en même temps les années de plomb sous Hassan II, les questions de censure. Donc c'est un film qui nous reconnecte aussi, qui permet de construire une mémoire collective par le film. Donc c'est un peu, voilà, ces différentes facettes qu'on peut retrouver dans le teaser qui montre quelques images de films.
Donc vous parlez de beaucoup de réalisateurs, réalisatrices différentes, et un des axes aussi de votre programmation, c'est de mettre à l'honneur et de faire un focus sur un réalisateur, en l'occurrence c'est un homme en particulier, en 2022, Merzak Alouache. Donc alors, qui est ce cinéaste? Est-ce que vous pouvez le présenter en quelques mots, en tout cas sa vie, sa biographie?
Oui, bien sûr. Alors Merzak, on est très content de le recevoir, il va nous accompagner pendant la deuxième... partie du festival, enfin je parle de deuxième partie, mais en fait le deuxième week-end, disons. On va commencer à présenter ces films à partir du jeudi 31 mars, et on terminera, voilà, on va en présenter jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On terminera avec une rencontre avec Merza Kalouache. Ce sera organisé à la Fabulerie. C'est un espace pour les auditeurs qui, auditrices qui ne connaîtraient pas, qui se situe au début du cours Lyotot. Donc, ce sera ouvert à tous. C'est sous la forme d'une forme de café. Ça ne se veut pas du tout dans une formule masterclass, mais plus un dialogue avec le cinéaste entre 15h et 17h. Donc, qui est Merzak et qu'est-ce que cette rétrospective ? Merza Kalouache, il fait partie des cinéastes. Il a vécu toute une première partie de sa vie en Algérie. Il s'est aussi installé ensuite en France, mais il reste très attaché et très ancré dans l'Algérie au travers de tout son travail de réalisation. Il a, rapide, il est connu pour avoir fait tout un tas de films différents. Il a fait des documentaires, des fictions, des films de comédie, comme Chouchou. Il a contribué au lancement de Gad Elmaleh à une époque. Et avant ça, il a été l'un des cinéastes qui illustre le début de ce qu'on a appelé le nouveau cinéma algérien, le cinéma de Jedida, qui s'est construit dans les années 70, avec d'autres cinéastes, comme notamment Beloufa, ou le réalisateur de Tahia Yadidou. Ce sont des cinéastes, avec Marza qu'il fait en 77, si je ne me trompe pas, sort son film Omar Getlato. C'est donc le point de départ de notre rétrospective. C'est un film qui va complètement à contre-courant de ce qui se faisait en Algérie à l'époque. C'est-à-dire qu'on est dans cette deuxième décennie après l'indépendance, dans un pays qui a une production cinématographique assez importante. Des films sont réalisés, ils sont soutenus aussi par l'État algérien, un État à vocation socialiste qui soutient et qui finance le cinéma. Mais ce sont plutôt des films qui sont dans une forme d'apologie de la lutte, de l'indépendance. On pourrait dire, je ne sais pas si le terme propagande est un peu fort peut-être, mais en tout cas ce sont des films qui ont une vision d'accompagner la construction du nouvel État algérien. Et contrairement à ces figures très héroïques qu'on trouve dans le cinéma de l'époque, Omar Getlato, le personnage de Merzak, il est un personnage qui est beaucoup plus inscrit, enraciné dans la vie de tout un chacun, hein. C'est vraiment, on est à Alger, il est passionné de musique shahabi, de musique populaire, il a vraiment cet amour de ses cassettes, etc. Un amour platonique, et on le retrouve dans cette déambulation quotidienne. Et ce regard caméra, la façon qu'il a de s'adresser à nous, tout ce qu'il nous montre de sa vie, c'est beau, ça montre d'emblée les inspirations fortes de Merzak, qui est plus tourné vers le néo-réalisme italien, la création de la nouvelle vague. Donc il fait un peu un bon coup de pied dans tout ce qui se faisait à l'époque. Et à partir de là commence une carrière qui se décline jusqu'aux années. Ben là encore, maintenant, on va présenter son dernier documentaire. C'est peut-être la meilleure façon de synthétiser. On en arrive à 2021 où on présente son dernier documentaire qui s'appelle Des femmes. Voilà, qui clôturera cette petite rétrospective de 5 films le dimanche midi, où là c'est une plongée dans le Hirak, le mouvement de contestation qui a commencé à partir de 2019 en Algérie, et il s'intéresse véritablement à la question du féminisme, le rôle des femmes dans ce mouvement. Et il mobilise aussi des images d'archives, parce qu'il avait fait un premier projet sur cette thématique dans les années 80. Donc c'est un très très beau, enfin c'est un documentaire qui est très fort. On aura aussi l'occasion d'en discuter avec Wassila Temzali, qui sera à nos côtés, qui est elle-même une figure qui est interviewée dans le film. Donc ça va être intéressant, il y aura ce dialogue.
Donc, lors de la 9e édition des Rencontres internationales de cinéma, c'est de ça qu'on parle, organisée par Aflam. Donc, vous allez diffuser 5 productions de Merza Kalouache. Donc, vous avez parlé de Omar Getlato et des femmes. Il y aura aussi Ba El-Oued, Normal et Madame Courage.
Ba El-Oued, ouais.
Ba El-Oued, ouais. Ah oui, mauvaise prononciation. Donc, quelle est la signature? Est-ce qu'on peut résumer? Comment est-ce qu'on reconnaît la patte de ce réalisateur dans ses...
Ah ouais, très bonne. Je pense que ce qui caractérise Merzak, donc nous, on s'est plutôt intéressé à son travail de fiction Il a fait aussi pas mal de documentaires. Et en fait, cette sélection, je dois absolument préciser quelque chose, parce que c'est de là qu'est venue cette envie de rétrospective. C'est donc en complicité avec le cinéaste installé à Marseille, Hassan Farhani, qui est donc dans une très belle carrière de documentariste lui-même. C'est donc sur sa suggestion, lui-même nous a dit voilà, moi, Merzak, il fait partie des réalisateurs qui m'ont inspiré, qui continuent de toujours alimenter mon travail. Merzak, c'est un cinéaste, je reprends les paroles de Hassan, qui, quand il n'est pas en train de tourner, il est en train d'écrire un film, et s'il n'est pas en train d'écrire un film, il est en train de faire un repérage. Et c'est ça, c'est une carrière très prolixe. Quelqu'un qui est toujours dans le geste de faire des films. Et sa signature, c'est peut-être, et ça vient en contrepoint aussi de notre approche patrimoniale, d'être très, très dans le présent, très à l'écoute de la société algérienne, de ce qu'elle traverse, des situations de violence, de conflits, de tensions, mais aussi beaucoup d'humour. Donc voilà, un film comme Madame Courage, il nous ramène véritablement vers une réalité dans les années 2010. Ça se passe dans la banlieue de Mostaganem, et on retrouve son personnage principal qui s'appelle encore Omar. Donc ça, c'est aussi un fil dans sa filmographie, qui là est prisonnier de l'addiction à la drogue. Et on voit véritablement la vie très modeste des habitants de cette banlieue, avec la question donc de la drogue. Un autre film comme Normal, c'est plus un film qui interroge la création du cinéma pile au moment de 2011, des mouvements révolutionnaires qui démarrent en Tunisie et en Égypte. Donc ce qui est bien, c'est qu'on aura Hassan Farhani et Nabil Djedouani, un autre acteur et cinéaste qui sont à nos côtés, pour présenter les films et enclencher le dialogue avec Merzak, et porter la fameuse discussion dont je parlais le dimanche après-midi. Donc je pense qu'on pourra avoir des éléments de réponse à ta question, Colline.
En venant
le dimanche à l'issue de cette plongée dans le cinéma de Merzak.
Et le festival à Flamme, c'est aussi un endroit dont vous avez commencé à en parler, où vous avez à cœur d'aller vers les publics. Donc en construisant des actions de médiation autour des œuvres que vous montrez, comment est-ce que vous procédez pour toucher des personnes de tout âge, tout horizon et tout milieu ?
Eh bien, déjà le fait qu'on puisse travailler sur l'année, mais aussi une chose qui est importante, parce qu'on s'est plongé sur cette réflexion de qu'est-ce que la médiation, c'est quelque chose qu'on va présenter dans le cadre d'une table ronde. C'est aussi, je pense, pour préciser ça, le fait qu'à Flamme, a d'emblée toujours accordé une grande importance à cette question de la médiation culturelle. Parce que c'est un métier qui est un peu flou, qui peut être un peu invisibilisé. On parle de faire le lien, ça peut être des fois ponctuel, un peu maternisant. On parle de public empêché, il faudrait aller les chercher. Il y aurait une culture à laquelle tout le monde n'accéderait pas, tout ça. À l'inverse, la Flamme a une position vraiment en contrepoint de tout ça. La médiation, c'est au cœur même du salariat dans la structure. C'est pas un métier précaire, secondaire ou ponctuel. Par exemple, moi-même, je suis rentrée dans la structure par la médiation culturelle, et à l'heure actuelle, j'ai la double casquette direction artistique et médiation. Donc on a déjà un véritable métier avec une réflexion tout au long de la programmation. On choisit les films aussi pour qu'ils puissent parler au plus grand nombre. Ensuite, factuellement, aller à la rencontre, c'est garder les liens tout au long de l'année. On a la chance d'avoir des jolis partenariats avec le cinéma La Baleine et le Vidéodrome 2, et aussi le Polygone Étoilé, qui nous permettent d'organiser des ateliers. Donc on fait des ateliers de programmation. On a des professeurs qui sont aussi membres du CA d'Aflam, du lycée Montgrand, du collège Marseille Vert. Donc on a des complices qui sont à la fois dans Aflam et à la fois dans leur salle de cours. Et donc ils pensent à nous parce qu'ils enseignent la langue arabe, mais pas que. On a un professeur de mathématiques qui est très actif et qui perçoit l'importance aussi d'ouvrir ces fenêtres de dialogue culturel. Donc c'est grâce à cette temporalité-là de proposer régulièrement, d'y prendre soin dans notre réflexion.
D'avoir des salariés qui sont engagés dans cette direction.
Ouais.
Et au-delà donc des médiations culturelles que vous proposez, vous voulez donc questionner l'idée même de médiation et ses différentes pratiques. Lors de la table ronde que vous avez évoquée le samedi 2 avril au MUCEM, comment est-ce que vous définiriez déjà la médiation culturelle en général ? Donc vous avez commencé à évoquer des termes, mais plutôt dans le négatif. Et comment est-ce que vous définiriez celle que vous proposez au sein de la flamme, d'AFLAM ?
Eh bien, je crois que c'est véritablement cette idée de tisser des liens. De tisser des liens entre l'œuvre, le public et un lieu. Et en fait, je répondrai par autrement, parce que c'est véritablement une dynamique en ce moment chez nous de se poser cette question de la médiation. Donc j'ai pas une formule, et tant mieux, parce que ça reste un espace ouvert sur lequel on s'interroge. On a, depuis 2019, impulsé un joli projet avec des partenaires des pays arabes et des pays européens. On a constitué un groupe de travail autour des questions de médiation. Donc je vais faire court, mais en gros, c'était parti de premières invitations de gens qui étaient venus à notre édition 2019. Puis pendant la période du Covid, quand tout s'est un peu ralenti, c'était l'occasion aussi pour nous de revenir à des choses plus fondamentales. Je pense qu'on a tous fait l'expérience de ça dans la fameuse année 2020, de finalement, quand tout s'arrête, qu'est-ce qui reste et sur quoi on a envie de mettre notre attention en particulier. Et ben à ce moment-là, on a, avec une amie, une collègue, enfin qui est surtout une amie, Virginia Pisano, on s'est attelé à organiser des séries de webinaires avec nos collègues qui étaient dans d'autres pays. Et donc, ce sont des opérateurs, opératrices culturelles, c'est-à-dire, c'est un mot valise pour dire qu'il y a aussi bien des programmateurs que des artistes, que des formateurs qui se joignent à nous. Donc concrètement, on est très contents parce qu'on a le soutien de la région pour développer ce volet international de nos activités. Ça nous a permis là d'engager des invitations à l'endroit de nos partenaires de Think Tanger, établis à Tanger, qui vont venir. Il y a aussi Maria Daif, elle qui travaille aussi dans la scène marocaine de Casablanca. Les rencontres de Béjaïa vont être avec nous. Ils organisent aussi un atelier en ce moment qu'on partage avec les jeunes de Marseille. On a un artiste égyptien, Salam Yousri, qui est connu pour avoir animé des grandes chorales en amont et pendant la Révolution, et qui va faire un atelier au sein des Baumettes avec les détenus et un public extérieur. Donc on va avoir un public mixte qui va voir des films et faire des temps d'atelier. On a cinéma Palestine Cinema Days, enfin le festival de cinéma palestinien avec Brigitte Boulad, et des complices aussi de Florence qui travaillent plus dans l'espace muséal. Le projet, donc, il s'appelle Amir. C'est un projet qui interroge la médiation, les pratiques de médiation au sein des 7 grands musées de Florence, à savoir comment impliquer les nouveaux arrivants qui s'établissent dans la ville de Florence pour qu'ils puissent être eux aussi en situation de transmettre autour des œuvres, et comment repenser les collections même du musée pour que ça reflète davantage la diversité culturelle, parce qu'ils sont face à des musées qui sont essentiellement le résultat de productions masculines faites en Europe, avec un regard sur l'extérieur, le monde. Donc c'est un peu ces pensées aussi, la pensée décoloniale, le fait de repenser un peu nos collections, nos façons de... Et voilà. Et quelqu'un d'autre aussi, un groupe tout à fait passionnant, Savi, qui travaille à Berlin. Donc ces 7 pays sont représentés par nos collègues avec qui on réfléchit depuis 2 ans maintenant à mettre en place un programme ensemble. On va organiser des ateliers. En gros, ce programme, il a pour vocation qu'on partage un peu toutes nos pratiques dans différents contextes. Comment on crée des propositions culturelles dans la société, autour des films, autour des musées, et comment, à partir de ces pratiques, on pourrait trouver des éléments communs qui donne lieu à une forme de méthode où on pourrait aller vers de la transmission pour repenser la place de la culture et la place des temps communs, le collectif en fait, dans notre société. C'est pour ça qu'on l'a intitulé à la recherche de l'atelier du futur, parce que c'est un travail d'expérimentation et de formalisation un petit peu pour pouvoir transmettre.
Et pour continuer à aller vers l'avant, même après la crise Covid. Ok, bah alors je pense que c'est un peu les derniers mots. On clôture en rappelant que le festival La Flamme, c'est du 24 mars au 3 avril 2022, au MUCEM, au Polygone Étoilé, au Vidéodrome 2, à la Fabulerie. Vous pouvez aller sur la page Facebook, sur l'Instagram, @aflamme.marseille, aussi sur le site internet aflamme.fr. Et je vous laisse voir tous les détails de tarifs, toute la programmation.
Ouais, je vais juste rajouter un petit mot. Merci beaucoup, Colline, pour dire que c'est prix libre pour les autres cinémas. Au MUCEM, c'est 4 euros ou 6 euros le plein tarif. 2,50 euros pour les groupes, par la médiation. Donc voilà, des tarifs qu'on veut accessibles. Et surtout, je soulignerai que notre soirée d'ouverture est une séance gratuite. Le jeudi 24 mars, donc ça approche, hein, c'est dans deux semaines, un peu moins de deux semaines. Donc on découvrira le très beau film de Karim Aynouz, Marin des montagnes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous signaler si vous voulez être sûr d'avoir une place. Voilà, séance gratuite, venez nombreux, c'est vraiment pour nous une façon de célébrer cette nouvelle édition.
Ouais. 9e édition. Ouais. Merci beaucoup Charlotte Dewert, qui fait partie du coup de l'équipe, de la belle équipe d'Aflamme.